premier rendez-vous de cette quatrième édition du festival Son de Plateau qui croise les territoires du son avec ceux du cinéma, des arts plastiques, du théâtre ou de la radio autour de concerts, de tables rondes et de projections. Une programmation qui se poursuivra jusqu'au 12 avril à Montevideo à l'initiative du GRIM. Double premier rendez-vous, en fait, puisque ce plateau radio est aussi le premier rendez-vous public de la résidence d'Arte et Radio au sein de Radio Grenouille. La ville sur un plateau, il y sera question d'écouter comment la ville sonne, la chanson sans cesse renouvelée de ses circulations, de sa rumeur et des paroles de citadins. On y découvrira aussi comment la ville résonne sur un plateau de théâtre, par exemple. Pour nous mettre à l'écoute de la ville ce soir, deux personnalités éminentes de la création sonore, Daniel Dehé, ingénieur du son pour le cinéma, le disque et le théâtre, notamment avec le metteur en scène Alain Françon, responsable de l'enseignement du son à l'École nationale des arts et techniques du théâtre et auteur de plusieurs ouvrages sur l'écriture sonore. Daniel Dehé participe avec Annabelle Vergne et Michel Maurer à une formation proposée en ce moment même par l'Arcade à Montevideo sur la place du sonore dans l'écriture théâtrale. Un autre regard, ou plutôt une autre écoute de la ville, avec Sylvain Gire, cofondateur et responsable éditorial d'Arte Radio depuis 2002, après avoir été producteur délégué à France Culture, puis rédacteur en chef d'Arte Magazine, c'est ça, Arte Magazine ? Il est aussi, je crois, l'auteur d'un recueil de nouvelles intitulé « Johnny est mort » qui est publié au Seuil. Je l'évoquais tout à l'heure, Arte Radio est actuellement en résidence chez les Grenouilles, une résidence qui débouchera sur un ensemble de rendez-vous publics et de créations radiophoniques et musicales sous l'intitulé générique des nouveaux Mystères de Marseille. Voilà pour les présentations. Cet après-midi, hier, au moment de la diffusion de cette émission, nous étions en compagnie de Daniel Dehé pour une séance d'écoute d'un panorama sonore tout près d'ici, à Notre-Dame-de-la-Garde. Daniel, qu'est-ce que tu retiens de cette écoute, de ce panorama sonore ?
C'est assez surprenant. En fait, je partais un peu à reculons. C'est pas que je sois un opposant de ce mouvement qui nous emmène en ce moment un peu comme ça à écouter le monde d'un seul coup. Il y aurait quelque chose qui se révélerait soudain auquel on n'aurait jamais accédé. Et voilà. En fait, j'ai le sentiment qu'il y a là l'occasion de faire apparaître, de distinguer, de montrer en quoi finalement l'écoute médiatisée et l'écoute directe ont peu de choses en commun et en quoi ils se différencient. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait peu de choses à écouter à cet endroit qui était un magnifique point de vue.
Mais beaucoup de choses à voir et moins de choses à entendre.
Voilà, c'est ça. Un pauvre point d'écoute et un beau point de vue. On avait en plus un beau temps, donc c'était magnifique. Mais en même temps, curieusement, faire le tour de cet espace nous a révélé dans des teintes extrêmement pastelles, dans des choses très ténues, que c'était pas si simple que ça et qu'il y avait beaucoup de choses finalement et que c'était assez riche.
Alors, au cours de ce panorama d'écoute, tu nous as donné quelques clés, justement, sur l'écoute de la ville, du panorama sonore, et notamment, tu nous as évoqué l'idée que notre écoute était une écoute désirante, c'est-à-dire que nous choisissions, en fait, ce que nous avions envie d'entendre.
Oui, on pourrait séparer deux écoutes. On a une écoute d'abord qui est l'écoute de protection, qui est l'écoute qui nous permet de survivre et qui sans cesse, au moindre surgissement, nous réveille et nous fait sélectionner cet élément, nous le fait analyser, puis l'abandonner immédiatement pour être disponible à un nouvel élément. Et puis il y a une autre écoute qui est celle qui nous emmène à l'endroit où on désirerait acquérir plus de choses, finalement entrer dans une écoute privilégiée d'un détail. Et cette chose est finalement l'écoute qui est celle que l'on préfère avoir, puisque sans cesse, face au monde, on n'arrête pas de prendre des choses et puis de les quitter pour aller chercher une autre chose. Nous n'avons jamais une écoute totalisante, globalisante, comme nous donne le micro quand on enregistre une scène sonore, mais on a au contraire une série d'approches plus précises, plus isolées. On a un cerveau qui nous permet d'isoler les choses dans la scène qui est face à nous.
Sylvain, que retiendras-tu, toi, de ton passage à la Bonne Mère ?
Je serais moins sévère que Daniel disait. J'ai trouvé que c'était un très beau moment. Il s'agissait, dans cette idée du partenariat avec Radio Grenouille, de créer comme ça, d'une façon un peu visible à l'intérieur de Marseille, des points d'écoute, comme il y a des points de vue, comme il y a des tables d'orientation. D'ailleurs, il y en avait une à Notre-Dame-de-la-Garde, et on s'est dit qu'il serait amusant, et en tout cas peu coûteux, parce qu'on a vécu là sans doute le moment de création culturelle le moins cher de toute la saison culturelle marseillaise, qui serait donc peu coûteux, au lieu de faire appel à des dispositifs de diffusion sophistiqués du son, juste de réunir des gens dans un point précis, à une heure précise, en leur disant, comme l'a très bien fait Daniel, maintenant fermons les yeux, écoutons. Et alors c'est vrai que selon lui, il n'y avait pas énormément de choses à entendre, mais en tout cas nous on s'est régalé à apprendre, à écouter, à exercer. Il y avait un fameux premier ministre qui parlait de l'intelligence de la main, puis là on a exercé l'intelligence de l'oreille.
Alors au cours de cette émission, on va bien sûr avoir de nombreux moments d'écoute, peut-être avec des dispositifs un tout petit peu plus sophistiqués que celui très simple et très peu coûteux qu'on a eu à Notre-Dame-de-la-Garde. On va commencer, Sylvain, si tu veux bien avec toi, un premier sujet extrait de la très grande bibliothèque sonore d'Arte Radio. Combien de sujets maintenant en tout sur Arte Radio ?
1200. Il y a 1200 sujets en ligne qui vont de 17 secondes à 49 minutes. Arteradio.com, précisons-le.
On le rappellera tout au long de cette émission. Un premier son que tu nous proposes de Murray Schaeffer.
Alors, c'est pas de Murray Schaeffer, c'est justement Murray Schaeffer est, comme Daniel, un praticien et un théoricien du sonore, et on avait voulu, avec lui, se livrer à cet exercice, c'est-à-dire qu'il va nous commenter, il va lire pour nous, comme on lit un livre, comme on lit un paysage, il va lire le paysage sonore d'une rue du Marais à Paris. Il va le lire, il le parle en anglais, il est canadien, mais il est assez compréhensible. On va en écouter deux petites minutes, puis on verra après.
On l'écoute.
Well, my name is Murray Schaeffer, and I'm a composer, and I'm I guess I would call myself a soundscaper. You know, the sort of whole paysage sonore, it's a paysage. I don't know where we are, but if you close your eyes, then you can get an acoustic sort of impression of where you are. So we can hear things on the left side. Then we can hear that there's traffic on the streets. We can hear that there are some people walking on the street as well. Maybe one can hear, if I raise my voice, that in that direction, that's an open space. Ah! We hear a little bit of an echo. Ah! If I turn in another direction, probably one can hear that we're much closer to something here. There's a shadow of some kind, an acoustic shadow. In fact, it's a building that's quite close. And that building is relatively high. I don't know whether one can detect.
Voilà, donc, j'espère qu'on a suivi. Murray Schafer se présente lui-même comme paysagiste sonore. Et alors, ce qui est intéressant, c'est un reportage d'Anthony Carcone, évidemment, grâce au miracle du montage et du mixage. Ensuite, à Arte Radio, on y a soigneusement isolé certaines pistes. On n'est pas du tout dans une prise de son réelle, si tant est qu'une telle chose existerait, qui s'appellerait la réalité en matière de sonore. Et on vous avait bien vu qu'à des moments, on a pu isoler sa voix. Et pour vraiment que l'auditeur puisse lire le paysage encore mieux que s'il était en compagnie de Murray Schafer. Donc le reportage d'Anthony Carcone dure 8 minutes. Il va nous faire prendre conscience de la résonance, c'est ce qu'on entendait à la fin et dont Daniel Desais parlait, à Notre-Dame de la Garde, du mur. On est dans le marais, il va parler des pavés. En bon anglo-saxon, à un moment, il va faire remarquer qu'en écoutant les talons d'une femme dans la rue, on peut distinguer qu'elle est très belle à l'oreille. Et puis, à un moment donné, les cloches vont intervenir, ce qui nous est arrivé aussi hier à Notre-Dame de la Garde. Et il va faire cette réflexion connue par les historiens, que effectivement, les cloches sont le seul élément de son humain qui nous soit parvenu intact à travers plusieurs siècles.
Alors justement, il y a un parallèle évident entre le son qu'on vient d'entendre et puis cette expérience à Notre-Dame de la Garde, de panorama d'écoute. C'est que là, on écoute quelqu'un écouter. C'est une sorte d'écoute indirecte, alors que ce à quoi nous nous sommes livrés à Notre-Dame de la Garde, c'était une écoute directe. Daniel Desais, deux modes très différents d'écoute. Cette écoute directe et cette écoute montée.
Oui, alors, il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est qu'on a quelqu'un qui nous fait un parcours d'écoute. C'est-à-dire qu'il commente ce qui arrive. Et je me suis rendu compte, quand je fais un travail, par exemple, sur le cinéma, sur le son au cinéma, que lorsqu'on projette les films et qu'on dit aux gens on va vous faire écouter quelque chose, les gens rentrent dans le film et oublient d'écouter. Et la conscience d'écoute disparaît très très vite. Et à la fin de la projection, ils me disent souvent, mais on n'a rien entendu. Et donc, si on, pendant la projection, on désigne sans cesse ce qu'il y a de singulier, là, l'écoute commence à apparaître. C'est-à-dire qu'il y a un effet de fusion entre ce que je vois et ce que j'entends, et qui est toujours au profit du phénomène, qui est toujours au profit du visuel finalement, et au déficit du sonore. Et la conscience de l'écoute est toujours perdue. Là, alors, autre phénomène, c'est que lorsque l'on est en direct face au monde, on a une écoute qui est différente pour chaque individu. C'est-à-dire qu'une assemblée rassemblée face à un paysage sonore, il va y avoir autant d'écoute que de personnes. Chacun va faire son parcours, va aller écouter un détail qui ne sera pas le même que la personne d'à côté. Lorsque l'on fait une prise de son de cet élément, eh bien, l'écoute qui va être obtenue va donner à tout le monde la même écoute. Et on n'aura plus la faculté de faire cette errance, d'avoir cette liberté, d'avoir une écoute différente chacun. Et c'est ça le bénéfice du direct. C'est ça, finalement, qu'on essaye de remettre en scène au théâtre lorsqu'on fait des multidiffusions et lorsqu'on met autant d'enceintes que de sources sonores différenciables pour redonner à chacun une liberté d'écoute, une façon de refaire sa propre association, son propre parcours. Et c'est ça qui me paraît le plus important, c'est de redonner de l'écoute, de la liberté dans l'écoute aux auditeurs.
Donner de la liberté dans l'écoute, Sylvain, ça dépend donc de cette manière de la présenter, la manière de la monter. En tant que responsable éditorial à Arte Radio, c'est toi qui as le dernier regard, en quelque sorte, sur les montages qui te sont présentés par les auteurs. Comment est-ce que tu veilles, justement, à ce que cette liberté d'écoute soit conservée dans les sons ?
Surtout que je n'ai aucune compétence technique en plus, donc c'est vrai que c'est pas
celle de tes deux oreilles.
Voilà, je suis le premier auditeur. J'ai tendance à penser, mais c'est une déformation peut-être d'un passé de journaliste, que si je m'ennuie à l'écoute, l'auditeur s'ennuiera. Donc on se prend soi-même comme mesure et comme unité, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. J'ai aussi une forme d'écoute parfois, je dirais, un peu flottante, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des choses dans le discours qui vont m'accrocher et que le preneur de son, que l'auteur lui-même n'a pas entendu. C'est-à-dire, du coup, je suis face à un auteur qui a réalisé sa prise de son, qui a pensé son sujet et qui a passé des heures, plutôt des jours, à écouter des dizaines de fois les mêmes fragments, et il se produit, ce qui est logique et ce qui est normal, qu'il n'entend plus rien. Et moi, à la première écoute, j'entends par exemple j'entends le titre très souvent, j'entends des points d'ancrage. Alors c'est un peu, ça va faire un peu psychanalyse en amateur, mais souvent j'ai l'impression d'entendre une espèce de vérité du personnage ou du sujet dans une phrase, dans un lapsus, et c'est ça ensuite qui va m'aider. En fait, je fais que renvoyer à l'auteur, il me semble, ce qu'il m'a présenté, mais dont lui, à ce moment-là, n'a plus forcément conscience. Après, l'autre chose que je peux dire, qui est pour moi extrêmement fondamentale, et en tout cas c'est tout le sens du travail d'Arte Radio, c'est qu'on va beaucoup insister sur les silences, les sons, les ambiances, les sons seuls, c'est-à-dire les moments où ça ne parle plus. Et ça, pour moi, ce moment où ça ne... où le personnage ou les gens qui se racontent cessent de parler, où on peut entendre leur environnement sonore, la ville, ne serait-ce qu'une fenêtre qu'on ouvre, ou même le son même de leur appartement, les craquements de leur plancher. Ça, pour moi, c'est la place de l'auditeur. C'est l'espace que nous réservons à l'auditeur d'Arte Radio, de ce son en question, pour investir ce qu'il entend, pour investir l'écoute de son émotion, de son intelligence, de ses affects, de sa réflexion, y compris d'ailleurs pour la discuter, pour la contredire. Ce qui est absolument impossible dans un discours ininterrompu, globalisant, qui est celui du média radiophonique traditionnel. C'est-à-dire des gens qui ne s'arrêtent jamais de parler, ou comme je le fais maintenant. Donc le silence, le son, c'est vraiment la place de l'auditeur. C'est à ce moment-là qu'il entend la phrase qui a été prononcée avant. Enfin, je me trompe, je dis ça d'une manière totalement empirique, hein, j'ai pas étudié la question, mais ça me paraît une évidence. C'est là qu'il a la possibilité d'entendre ce qui a réellement été dit et éventuellement de le questionner.
Si la vision est quelque chose qui est plus ou moins instantané, en revanche, l'écoute, on vient de s'en rendre compte de multiples manières, est quelque chose qui a à voir avec le temps. Il faut du temps pour commencer à entendre finement les choses, et puis aussi parfois, à force de les entendre, eh bien, on ne les entend plus. Je vous propose maintenant qu'on entende un deuxième extrait sonore proposé par Daniel Dehaye. Daniel, tu nous fais écouter.
Alors, ça s'appelle Un sergent de ville très occupé, et c'est un monde.
Ils le sont très en ce moment occupés, les sergents de ville.
Alors c'est un montage à partir d'une prise de son qui a été faite en Extrême-Orient et mêlée à un flipper de la vieille espèce qui nous donne une forme un peu de construction de l'organisation cybernétique de la ville où finalement tout serait commandé par des relais. Ça serait une vision des années 60 d'une ville, d'une modernité vue à travers les années 60. En fait, on peut, à partir des sons directs, reconstruire, on peut refaire des pièces. C'est là un extrait d'un disque qui a été fait dans les années 80 et qui, à l'époque, se travaillait à cet endroit. Il était classé dans le champ musical, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire finalement c'est le chant qu'avait Luc Ferrari par exemple, mais pour moi ça n'était pas un chant musical, c'est un chant sonore plus généralement. Voilà.
Oui. On l'écoute.
Thank you.
un sergent de ville très occupé. On vient d'écouter là un paysage sonore, mais alors qu'on associe très souvent le paysage sonore à de longues plages sonores, là, eh ben, au contraire, on s'est trouvé face à quelque chose qui est extrêmement monté cut, comme on dit. Donc le montage, c'est aussi un élément déterminant pour faire apparaître le paysage.
Oui, il y a quelque chose là qui se rejoue même dans une façon de ralentir les sons, de les relancer. Il y a une matière molle. On arrive à la. Il y a une espèce de plasticité sonore qui apparaît. La coupure est quelque chose d'important puisque la coupure produit ce qu'on appelle des régimes transitoires, c'est-à-dire des moments où l'oreille est à nouveau attirée. Dès l'instant où il y a une rupture, à chaque démarrage, il y a un événement à repérer et à comprendre. Et lorsque l'on construit des pièces comme ça qui sont que construites sur les régimes transitoires, elles sont comme ça extrêmement prenantes. Quoi. Elles n'arrêtent pas de nous tenir dans l'écoute. Hein, c'est une pièce relativement brève avec un petit amusement sur finalement le rien, là encore, hein, comme le rien de la circulation ordinaire, des petites motos. Voilà, au Vietnam, avec un flic qui fait la circulation avec son sifflet.
Sylvain, sur cette idée que le paysage sonore est quelque chose qui est en fait extrêmement construit, extrêmement élaboré.
De ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que le son n'existe pas à l'état gazeux et le micro est tout sauf un sismographe ou un compteur geyser. Donc la pire erreur que puisse faire un preneur de son ou un documentariste débutant, c'est de dire ah non mais je vais sortir puis je vais prendre des ambiances puis on verra bien après quand je rentrerai, j'écouterai puis je trouverai quelque chose. Et en fait ça n'existe pas, le son, il y en a pas. On en entend plein mais il y en a aucun qui a du sens, qui est intéressant. Il faut constamment aller le chercher. C'est un métier de physique, de déplacement, de cadrage, de choix, de distinction, comme l'a très bien expliqué Daniel Desay tout à l'heure. Donc on passe son temps à... C'est ingrat, et de ce que j'en comprends, parce que moi je me garde bien d'aller sur le terrain, mais il faut aller chercher les choses. Elles ne sont pas là, en tout cas, elles ne sont pas données. Nicolas Frise dit le micro est un con, et il a raison. Le micro sert à rien. Et voilà, donc il a fallu aller chercher par exemple, et puis il a fallu entendre que tout d'un coup un flipper nous racontait la circulation beaucoup mieux que la circulation elle-même. Voilà, donc...
Est-ce que malgré tout, et parce que les beaux principes ne valent que par leur contradiction, est-ce qu'il existe parmi les 1200 sujets sur Arte Radio des sujets qui sont tournés, montés ?
Des plans séquences, oui. Presque pas. Pas des vrais, en tout cas. Il y a énormément de faux plans séquences. Il y a beaucoup de choses qui sont montées pour faire croire à un plan séquence. Il y a un très très beau moment de Sylvie Gasteau qui s'appelle, je crois, Ramadan, qui doit durer moins d'une minute ou deux minutes, où elle enregistre l'appel avant l'appel qui dit qu'il faut se dépêcher de prendre un petit déjeuner parce que ça va être le lever du soleil dans une rue de Beyrouth. Et c'est presque un plan séquence, mais je crois même qu'on en a raboté des bouts. Mais disons qu'on entend effectivement le flip-flop des sandales du crieur qui annonce le début du Ramadan. Même celui-ci, il est monté. À moins, je dois certainement me tromper, mais là, j'en vois pas. Ça n'a pas une très grande importance, fait qu'il soit vrai ou pas, le plan séquence, que les choses soient vraies ou pas. C'est vraiment la dernière préoccupation du documentariste.
Alors on était tout à l'heure au plus haut de Marseille, à Notre-Dame de la Garde. Je vous propose maintenant qu'on redescende vers le niveau zéro, c'est-à-dire le niveau des mers, pour aller du côté du port avec un sujet que tu nous as apporté, Sylvain, un sujet réalisé par Olivier April, qui est d'ailleurs parmi nous ce soir. Tu nous en parles ?
On va l'écouter peut-être, c'est... On va l'écouter, voilà, un petit peu.
Thank you.
C'est un lever de rideau, en fait, ce qui nous a beaucoup plu. Et je l'ai coupé délibérément et méchamment juste avant qu'ils se mettent à parler. Mais, voilà.
C'était justement le propos de cette écoute, en fait. C'était d'articuler le sonore et la parole. Quelle est la place de la voix et de la parole dans le sonore?
Et là, on a une voix qui naît du sonore. C'est-à-dire, on a un orchestre qui se met en place, on a les instruments qui grincent, qui, à gauche, à droite, ça prend un petit peu de temps, etc. Ça se met en place, ça s'accorde, et puis on entend ce qu'on coupe d'habitude, les raclements de gorge, les tests, 1-2, 1-2, 1-2, et puis tout d'un coup, il y a la voix d'Olivier qui va se mettre à parler, qui lit un texte qui n'est pas non plus un texte extrêmement personnel, et pas du tout, puisqu'en fait, il va lire ce qu'il a devant les yeux, qui sont les différentes inscriptions techniques qu'on trouve sur le port industriel de Marseille. Les inscriptions relatives aux bateaux, aux syndicats CGT, aux différentes grues, etc.
Le paysage sonore, il est aussi textuel, et on peut le traduire en lisant ces éléments écrits qui parsèment le paysage. Daniel Dehé, tu es l'auteur d'un livre qui s'intitule « L'écriture sonore ». Et donc ce rapport entre l'écriture et le son, tu l'as beaucoup travaillé.
La question s'est posée à moi quand j'ai formulé ce mot, écriture sonore, finalement. Pendant longtemps, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut bien dire. Et même après avoir écrit le livre, la question se posait toujours. Et effectivement, alors fondamentalement, il y a écriture sonore à partir du moment où il y a dépôt sur un support, c'est-à-dire enregistrer, c'est mettre en registre. Et lorsqu'on va à la mairie et qu'on enregistre une mort ou une naissance, c'est qu'on crée un acte qui vaut. Il y a, à partir du moment où on dépose, l'acte indique et décrète le réel. Le réel apparaît à partir du moment où il est inscrit. Et du coup, cette inscription, lorsqu'on se rend compte à travers tous les médias ou à travers tous les supports qui sont évidemment édités, puisque c'est le monde de l'édition, hein, quand même, le monde du sonore aussi, il traverse énormément ce champ qui le cadre et qui le police aussi. En fait, on se rend compte que les formes sont extrêmement diversifiées, que la forme d'enregistrement de la musique n'est pas du tout celle du cinéma, n'est pas du tout celle de la radio, et dans la radio, il y en a des centaines de formes différentes, et que chaque, émission trouve sa forme, et c'est ça sa singularité. Et donc très vite, la question de l'écriture s'est posée, ce qui est finalement comment on peut penser la forme et comment... Alors, ce qui est intéressant dans l'écoute qu'on a eue précédemment, c'est qu'on se rend compte que la matière elle-même impose sa forme et qu'il y a là quelque chose qui naît du placement du point d'écoute, du placement du microphone. Le placement du microphone détermine, nous met en contact avec des volumes, des architectures, des matières, nous place comme un photographe face à des puissances, à des corps, et on est confronté par notre mémoire que l'on a tous en commun de tous les sons du monde. Et ce que l'écoute nous rappelle, c'est notre rapport sensible au monde. Et sans cesse, il réveille en nous, à travers l'écoute, notre rapport sensible au monde, mais dans une durée qui n'est pas du tout la durée du réel, qui n'est pas du tout la durée de l'expérience au moment où on la vit, mais d'une nouvelle durée qui est celle de l'écriture, qui est celle du temps de l'écoute lorsqu'elle est reconstruite ou quand elle est construite. Et ça, l'écriture sonore, c'est aussi ça, c'est de repenser la durée des formes, repenser la durée de quelque chose que l'on va déplier devant l'autre et qu'on va lui donner à entendre.
Et puis il y a un lieu où cette articulation entre le sonore et la voix, entre le sonore et le texte est particulièrement cruciale. Ce lieu, c'est un plateau, c'est le plateau de théâtre. C'est un lieu où tu travailles très souvent. Est-ce qu'il y a des règles en la matière? Des règles qui, j'imagine, sont faites que pour être transgressées?
Oui, en fait, on les réinvente à chaque fois. En fait, la question même serait celle-là, c'est trouver la règle à chaque fois pour chaque pièce de théâtre, c'est-à-dire quel serait l'ajustement qui correspondrait, qui nous permettrait d'introduire du sonore dans l'univers onirique d'un auteur, puisque finalement une pièce de théâtre, c'est un temps un silence, un temps qui n'arrête pas de trouver son élasticité, puisque dans le théâtre, on n'est pas dans un temps qui est de l'ordre du chronos, qui serait celui de la prise de son, qui avance comme une horloge. Le temps qui aurait un autre temps, parce que la prise de son nous révèle aussi d'autres temps que celle du chronos. On est dans un temps qui est celui de l'onirisme du théâtre, et le temps chez Beckett n'est pas le même que celui de Shakespeare et n'est pas le même que celui de Ionesco. Donc il va falloir à chaque pièce rentrer dans cet ajustement pour que ces sons semblent naître de ce même univers et qu'il n'y ait pas une hétérogénéité, mais que là, imaginer le sonore de Beckett, c'est finalement repenser le sonore du monde et finalement le remettre en forme pour l'adapter à ce qui existe devant nous. Ça, c'est, je crois, une des choses les plus difficiles et en même temps les plus belles, puisque ça la part de la prise de son et ça va jusqu'à sa réinstallation sur scène.
Alors, on va continuer autour du théâtre avec un nouvel extrait sonore. Il ne sera pas question de Samuel Beckett, là, mais de Don von Horváth. Tu nous présentes
alors,
ce son.
C'est un extrait sonore qui a été donné sur une pièce qui s'appelait Un fils de notre temps, qui est une pièce donc d'Horváth, et sur l'attente, sur cet état où l'on est dans une gare sur un quai la nuit, il se passe rien et seul on est assis, seule une personne marche devant nous et on attend. Et c'est un hors-champ qui nous donne une autre durée.
d'attente, un presque rien, et en même temps une intensité dramatique extrêmement forte dans cette pièce, au point que on pourrait presque se passer de la scénographie, de la présence des acteurs et du reste du dispositif théâtral, tellement la pièce en elle-même conduit déjà l'attention et installe le décor. Peut-être ça peut nous amener à parler de la théâtralité du son, un domaine dans lequel on reviendra d'ailleurs au cours de ce festival Son de Plateau, avec une table ronde qui sera consacrée à cette notion de théâtralité du son. Peut-être, Sylvain, sur cette théâtralité du son, ça t'évoque quelque chose ?
Pas plus que, pas mieux, surtout que ce qu'on vient d'entendre, qui est effectivement extrêmement riche en matière, en épaisseur du temps, en épaisseur de l'attente. Chaque son est à la fois très... Enfin, il y a des sons très précis, et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a de la brume, il y a comme un souvenir de musique, il y a du temps qui s'écoule, le train arrive exactement au moment où il doit arriver, quand on n'en pourrait plus de ce dispositif. En même temps, il emporte la musique avec lui, plus rien n'est pareil derrière. Enfin, c'est vrai qu'on l'arrange pas en 2 minutes, 3 minutes. C'est une pièce entière, c'est presque une nouvelle, c'est un poème. C'est absolument magnifique, avec rien. Et on n'est pas dans un espace, justement, du réel, sur lequel nous on travaille beaucoup, parce qu'on se concentre beaucoup sur le documentaire. On n'est pas dans un temps du réel, on n'est pas dans un espace du réel, on n'est même pas dans un lieu. C'est vrai que Daniel parlait de salle d'attente, mais bon, voilà, c'était pas... Enfin, jusqu'au train, c'est pas... Et bon, voilà, c'est juste magnifique, ça fonctionne, c'est une véritable écriture sonore, effectivement, une théâtralité, mais...
Pour rebondir sur ce que vient de dire Sylvain à l'instant, Daniel, est-ce que cette théâtralité du son, elle vient justement du fait de quitter le réel, d'aller au-delà du réel ?
On le reconstruit, il y a quelque chose qui est de l'ordre... Finalement, le réel, c'est toujours le réel d'un point d'écoute et de quelqu'un. Et là, c'est organiser quelque chose qui serait de l'ordre de la sensation d'un moment, d'un état, d'une époque, d'une période... Ce qui est très beau dans ce texte d'Horvat, c'est que c'est un soldat au début, juste au moment de la montée du nazisme, qui va être envoyé au front et qui, au moment de partir, refait des traversées de la ville dans une immense solitude, y compris dans une fête foraine très très riche et très bruyante. Et on a ce que j'ai essayé moi de faire là-dedans, c'est de retrouver sa solitude tout le temps. C'est peut-être une des façons, enfin, les plus intéressantes pour nous au son d'intervenir. J'ai travaillé ça aussi avec Philippe Garrel, même dans les enregistrements des musiques de films. Je me souviens d'un film de Garrel qui était le Cœur Fantôme, qu'on avait fait en 93. C'était la musique de Barney Whelan, et je me souviens que la scène se passait sur une plage, le comédien était seul, et donc on avait un enregistrement de saxophone enregistré très près du bec et dans le souffle, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, et Barney me dit je voudrais mettre un deuxième instrument, et je me dis mais il va tout casser, enfin cette solitude qu'on a là va être détruite. Or finalement il amène un piano, le lendemain on enregistre une partie de piano dessus, et la question se pose tout de suite: comment mixer ce piano avec ce saxophone? Et la seule solution, c'est par hasard que j'ai trouvé, grâce à Philippe qui veut pas enregistré devant des moniteurs de télévision, mais face au grand écran, on avait sur la plage au lointain une petite maison allumée, et finalement je me suis dit, le piano je vais le mettre dans la petite maison allumée, et j'ai pu faire ce mixage parce qu'on était au format de la projection, et ça on ne peut pas le faire si on n'est pas dans une certaine condition de construction du son. Donc finalement écrire avec le son, c'est pas simplement associer des éléments, mais c'est tout le dispositif qui est en marche, c'est toutes les conditions de la fabrication qui sont tout le temps en marche et qu'il faut auxquelles il faut veiller, il faut être dans une acuité permanente de tous les éléments qu'on a sous la main avec lesquels on puisse travailler.
Et puis écrire avec le son, tu l'indiquais tout à l'heure, ou je ne sais plus, c'était peut-être Sylvain, c'est aussi écrire avec du silence. Le silence a une place importante, déterminante pour que le son vive. Sylvain ? sur cette importance du silence.
Le silence ou le faux silence, enfin en tout cas l'absence de paroles ou de propos explicites, une ambiance, un bruit.
Alors tu parlais de silence et de faux silence, est-ce que peut-être tu peux préciser ça?
Non, enfin, je veux dire, le silence, ça, d'abord, ça n'existe pas. Ou alors, il faudrait arrêter la diffusion ou la retransmission. Il y a toujours une matité, une épaisseur, un souffle, une atmosphère, une fumée, quelque chose qui passe, en tout cas, à travers une pièce vide. Et puis, ce qui nous intéresse dans le travail, en tout cas quand on monte ensemble des voix et des ambiances, c'est pas forcément un silence. Ça peut être un son, un bruit, des pas, des craquements, n'importe quoi, mais en tout cas un moment où la parole s'arrête, n'a pas lieu. C'est, même des conversations au loin, c'est déjà trop. Des chansons, c'est déjà trop. Les gens qui chantent, c'est encore de la parole. À des moments, il faut plus de parole du tout.
Un silence habité, donc, et peut-être qui correspond aussi à cette impression qu'on entend trop de paroles, qu'on entend trop de musique, qu'on entend trop de ce son-là que les médias véhiculent à l'envi.
C'est surtout qu'il faut laisser de la place à l'autre. Je crois de plus en plus que notre travail, enfin ce qu'on essaye de faire, s'apparente à la lecture. Et que l'écoute active dont parlait Daniel, l'écoute de la radio de création ou de la création sonore, c'est une écoute qui demande autant et qui est aussi gratifiante et aussi enrichissante que peut l'être la lecture. Mais dans la lecture, justement, le génie sublime de la forme littéraire, c'est de faire naître les images dans l'esprit de l'auditeur, c'est de les faire naître dans les blancs, dans l'espace entre les mots, dans le blanc de la page qui tient les mots ensemble, et puis chacun a sa vision de Madame Bovary courant dans les chemins creux à son rendez-vous pour retrouver Rodolphe. Voilà. Cette vision-là, elle appartient à chaque lecteur, et en même temps, le texte de Flaubert n'a pas bougé. Donc, de la même façon, nous, dans ce qu'on fait, moi, je sais très bien, parce qu'on parle beaucoup avec les auditeurs, ils ont entendu des choses absolument ahurissantes qui ne sont pas du tout dans le son, pas dans le reportage. Ils ont pu l'entendre parce qu'on leur a laissé la place de l'entendre. Et cette place-là, c'est ce que je vais appeler l'ambiance ou le silence ou le son, mais en tout cas, c'est l'espace entre les mots.
Cette pauvre Madame Bovary qui était décidément mal barrée, elle n'est peut-être pas la seule dans son cas, puisque je crois que ce que tu vas nous faire écouter maintenant, ça s'appelle aussi Mal barrée.
C'est parce que c'est un petit document, un reportage, on va dire, de Marine Vlahovic. C'est assez intéressant parce que c'est son premier reportage. Donc c'est une fille qui nous a appelé, elle est étudiante, elle travaille pour payer ses études, elle donne des cours, elle est pionne, et elle entend quelque chose. Chaque matin quand elle sort de chez elle, elle entend quelque chose de très particulier, de très contemporain. D'ailleurs, j'ai reçu l'autre jour quelqu'un qui me disait, il n'existe plus les cris de Paris, comme avant il y avait le vitrier ou le rémouleur, etc. En fait, si, ils existent, ils ont juste changé. Donc le cri qu'on va entendre et qui a donné plus ou moins son titre au reportage, on l'entend aussi d'ailleurs à Marseille assez fréquemment, et c'est à partir de ce son là, c'est pour comprendre ce qu'il y a derrière ce son que tout le monde entend mais que personne n'entend plus, que cette fille a décidé de prendre un micro, de vaincre sa timidité et de devenir reporter. Et c'est le plus beau cadeau qui nous est arrivé que la volonté qu'elle a eue de faire ce reportage dont on va écouter la première minute.
Allez, allez, ici, garage-là, mon cher. Vas-y, profitez la chance. Marlboro.
La Barbès, c'est le quartier mythique, Marlboro. C'est le quartier maghrébin. C'est là où il y a une concentration d'Algériens. Bon, on trouve tout. On trouve les gens du bled, tout qu'est-ce qu'il y a, le business, il y a tout là-bas. Il y a des montres, il y a des téléphones portables, il y a des cigarettes. Tu veux manger un plat du bled, tu pars là-bas, tu manges ça. Voilà, c'est ça, c'est Barbès, c'est assaisonné.
Il y a un plat qui a servi à l'église, c'est gratuit.
Malboro.
Vas-y, il n'y a pas d'argent.
Voilà. Je m'appelle Hicham, plus reconnaissable sur le pseudonyme de Hitch, parce que tout le monde m'appelle comme ça, mes potes et trucs comme ça. Et j'ai 28 piges. Je vendais clopes à Barbès occasionnellement. Je vendais ça très régulièrement, mais maintenant je taffe. Donc quand j'ai du temps libre, un peu comme ça, je pars vendre des cigarettes.
Ouais,
je viens du bled. Je viens du bled, je suis un Algérien, je viens du bled.
مالبروشي مالي مالبروشي مالي جون يعني تخدم على روحها من حقها تخدم مالبروشي مشي مالي جون سي كوم سا لو ترافاي.
Quand tu pars en France et plus particulièrement à Paris, si tu n'as pas de famille ou un truc comme ça un peu dans l'île.
Oh, je suis désolé d'interrompre le récit d'Hicham qu'on peut retrouver heureusement en ligne. Donc voilà, c'est un portrait de sans-papiers qui est devenu une figure presque un classique obligé du documentaire de création. Mais ce qui m'a plu, c'est que vraiment son désir à Marine Vlahovic, il est parti de ce son-là. Malboro, 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 qui va être exploité ensuite au fur et à mesure du montage que les réalisateurs sonores d'Arte Radio ont ensuite mis en boucle, trafiqué, joué avec. Mais ça, c'est une vraie appréhension. J'entends dire Malboro, Malboro en bas de chez moi et tout d'un coup, je veux comprendre et elle va tirer le bout de la ficelle. Et en 10 minutes, on va en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que c'est que la clandestinité, l'immigration et la vente de clopes au noir.
Et on va l'enchaîner tout de suite avec une autre pièce de Daniel Dehé qui s'intitule Merlicht et on en parle juste après. Successivement Malbarré et puis Merlicht, deux pièces, l'une apportée par Sylvain Gir, l'autre par Daniel Dehé, deux pièces très fortement musicalisées. Ça amène à poser la question de la place de la musique dans cette sonorité de la ville.
Alors là, c'est une pièce qui date des années 70. À l'époque, je travaillais avec les musiciens de la... qui ont été des déviants par rapport à la scène de la free music c'était le début de l'underground français quoi. Et il y avait ces musiciens avec qui finalement on n'avait pas jamais accès au studio et avec qui on inventait à chaque fois des mises en scène la forme discographique. Là, Bernard Vitège joue du balafon et j'ai mixé son balafon sur une prise de son que j'ai fait au puce un lundi matin dans le froid où il n'y a personne. Pardon, et où finalement on a une sorte de travelling. Alors la pièce dure 8 minutes, donc c'est quand même quelque chose qui est très développé. On passe à côté de boîtes à musique, comme on a entendu au début, de gens qui font du trafic, de rideaux qui se ferment, etc. Un autre morceau se passe à Saint-Nicolas-du-Chardonnay pendant la messe intégriste et on a enregistré un violon dans une chambre de réverb et le violon joue semble le jouer dans l'église au moment de la quête, les pièces tombent et voilà. Donc il y avait une espèce de volonté de remettre en jeu, de remettre en scène la musique et de la réintégrer dans le monde sonore, dans le monde vivant. Voilà.
C'est vrai que cette ville, c'est aussi un formidable rack d'effets pour le son. Elle produit du délai, elle produit du phasing, elle produit de l'écho, elle distord le son, elle le triture. Curieusement, dans les programmes qui sont diffusés sur arteradio.com, il y a très peu de musique, c'est un peu un dogme. Enfin, les sujets sont très musicaux, mais il y a un peu un élément dogmatique qu'il ne faut pas entendre les gens poser des questions et qu'il ne faut pas entendre de sélection musicale.
C'est vrai, parce que la musique a une force, une puissance émotionnelle gigantesque qui se suffit complètement à elle-même. Et donc, une chanson porte en elle des millions, des milliers de vies, d'espoirs déçus, d'amour raté, de naissance, de décès, de moments de gloire et de détresse. Et c'est difficile de rivaliser avec ça, et c'est une forme de facilité, je pense, que de mettre de la musique dans un documentaire. En tout cas, je le prends comme ça. Il y avait aussi la contrainte qui était des droits, tout simplement, hein, c'est beaucoup plus difficile de faire sans. En tout cas, c'est extrêmement pratique. À un moment, après un entretien, un documentaire sur une voix, on fait débarrer un petit peu de musique, un petit peu de oud, tout de suite ça va être magnifique, ça va être le bled, l'Algérie, l'immigration, tout ça. C'est beaucoup plus dur de le faire avec le bruit du métro et les vendeurs de clopes. Je pense que ça en vaut la chandelle, effectivement.
Je vous propose qu'on conclue cette émission avec une dernière écoute, un son apporté par Daniel Dehé, un son qui s'intitule « Foire du trône ».
Allez, on choisit, on vous attend. Allez, les amateurs de tir, on vous attend. Allez, on essaye, allez, on choisit. Allez, les hommes, la ficelle coupée, c'est gagné. On vient gagner un téléviseur.
Foire du trône, Daniel, très très rapidement, peut-être deux mots pour désannoncer ce son qu'on vient d'entendre.
C'est la richesse de ce monde finalement très populaire où finalement les personnes qui accrochent les clients sont des mondes à eux tout seuls et sont des romans à eux tout seuls. Il y a là dans le vocabulaire et dans les mots employés dans et quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Enfin, on voyage vraiment très loin dans les foires.
Les êtres humains sont tout seul, quelque part aussi.
Oui, une sorte.
Dans cette foire. On a un peu cette impression de solitude.
Solitude, ressenti, ouais, absolument.
Tout au long des différents extraits qu'on a pu écouter ce soir. Merci à Daniel Dehé et Sylvain Gire pour ses écoutes et ses réflexions sur le son de la ville et son usage en plateau. Prochain panorama d'écoute, ce sera le 19 mai et ce sera sur la plage de Corbière dans le cadre de la résidence d'Arte Radio au sein de Radio Grenouille. Arte Radio, je vous le rappelle, c'est sur le web, c'est www.arteradio.com. Prochain rendez-vous de la programmation de Son de Plateau, c'est jeudi 9 avril à partir de 18h, une table ronde sur la théâtralité du son avec Brigitte et Gaston Sylvestre, Bérangère Maximin, Jean-François Perret, Franck Beauchard et Franck Smith, ainsi que Carlos Roque Alsina,
compositeur. Deux concerts ensuite dans cette soirée à 21h, une création mondiale avec Bel Canto de Carlos Roque Alsina, et puis à 22h, concert électroacoustique avec Tant que les heures passent de Bérangère Maximin. Tout le détail de la programmation de cette 4e édition des Sons de Plateau est sur le site www.grim-marseille.com. À la technique, Djilali et Eric.